Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.
Bonjour à tous, bonjour Lucien.
Bonjour Luc.
Alors nous nous retrouvons toujours dans cette longue période de la crise moderniste, celle qui aujourd'hui laisse encore des traces dans nos sociétés, et ça nous permet aussi de mieux comprendre ces crises aujourd'hui. Alors nous avons évoqué des personnages importants à l'époque et nous en étions au clergé. Comment le clergé s'est situé dans cette crise moderniste?
Alors je rappelle que nous sommes dans la charnière du 19e et du 20e siècle. Alors les prêtres, au milieu de cette crise, comment réagissent-ils? C'est difficile de savoir pour tous. D'abord, il y a les réactions des évêques qui peuvent marquer leurs prêtres. Mais, disons, il y a un courant nouveau qui apparaît et qui va s'opposer bien sûr à un autre. Le courant nouveau, c'est ce qu'on va appeler à l'époque les abbés démocrates. Alors ça se rattache donc à la démocratie chrétienne qui, dans le sillage des deux encycliques de Léon XIII, au milieu des sollicitudes, et puis Rerum Novarum sur la question sociale, vont se saisir de ce que ces textes pouvaient ouvrir comme perspective pour, je dirais, s'engager très nettement dans une requête, dans une action démocratique. Mais ces abbés démocrates pensent, aujourd'hui d'ailleurs je crois que beaucoup de gens dans l'Église pensent comme eux, que si par exemple des laïcs se réunissent, il ne faut pas immédiatement les chapeauter et que c'est aux laïcs de prendre des initiatives, que ce soit sociales, politiques et même parfois intellectuelles. Les cercles chrétiens d'études sociales, il y en a un qui se fonde à Reims, en 1891, l'année même de l'encyclique Rerum Novarum. Et il semble que ce soit des ouvriers qui en aient pris l'initiative. Comme beaucoup de gens à d'autres époques, ils sont déçus de voir les politiciens qui sollicitent leur suffrage sans s'intéresser vraiment à leur sort. Et donc, un certain nombre d'ouvriers, de travailleurs, vont trouver le curé de la paroisse Saint-Rémy de Reims, une grande paroisse de Reims, et ils désirent étudier la question sociale d'après l'enseignement de chrétien, puisqu'aujourd'hui, ça c'est entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, dans l'Église, le vent souffle de ce côté. Le cercle voulait s'ouvrir à tous les ouvriers, quelles que fussent leurs croyances, leurs convictions, leurs pratiques, et il se méfie du patronage de la classe bourgeoise. Donc on est dans une initiative spécifiquement ouvrière, et d'autres cercles se créent, encouragé par Léon Armel, qui est un patron assez exceptionnel, puisqu'il est un peu mutualiste. Et ces cercles sont souvent menés par des ouvriers. C'est une chose tout à fait nouvelle. Jusque-là, il y avait des cercles pour les ouvriers, mais qui étaient toujours menés par des bourgeois ou des aristocrates. Alors ces cercles vont devenir une fédération, et tiennent un congrès à Reims en 1893, et c'est un militant ouvrier chrétien du Nord, Fernand Leclerc, qui réussit à faire adopter une motion en faveur de syndicats indépendants, patron d'un côté, ouvrier de l'autre. Et le Congrès est d'accord pour penser que, de fait, les travailleurs n'adhéreront à un syndicat que s'ils ont l'impression de n'être pas sous la tutelle de la bourgeoisie. Donc il y a des cercles qui se créent un peu dans toute la France. En 1896, il y a 20 000 adhérents, ce qui est quand même une nouveauté. Mais la ligne de fond de la démocratie chrétienne n'est pas aussi nette. Alors, on va avoir des... parce que la démocratie, c'est très bien, mais ça peut recouvrir des gens d'opinions contradictoires. Donc, il est important, et c'est là que je veux en venir, après avoir parlé des laïcs et de leurs initiatives, il est sûr que l'attitude des prêtres va être aussi très importante. Donc, les conseils répétés aux prêtres de ne pas s'enfermer dans les murs de leur église ou de leur presbytère, mais d'aller au peuple et de s'occuper de tout cœur de l'ouvrier et du pauvre, tout ceci résultant de l'enseignement de Léon XIII, on y reconnaît des expressions que ne renierait pas le pape François aujourd'hui. Tout cela va faire prendre davantage conscience au clergé de la distance qu'il y a avec le peuple. Cette distance, certains l'avaient vue depuis longtemps. Je crois avoir dit dans une précédente émission, mais oubliée parce qu'elle est vieille cette émission, qu'en 1849, un vicaire de Paris avait envoyé à son évêque un mémorandum où il dit, intitulé « Sire, non, pardon, ce n'est pas Sire, Monseigneur, votre peuple se perd. » Et il constatait déjà, en 1849, que le nombre des pratiquants était devenu infime dans certains quartiers de Paris, que les enfants ou jeunes allant au catéchisme étaient rares, et que de toute façon, la communion dite solennelle, ce n'était pas encore le cas parce qu'il n'y avait pas de communion privée en 1849, mais la communion était souvent la dernière. Alors, déjà des gens commençaient à se rendre compte de cela, mais ça n'avait fait que s'accentuer, peut-être plus dans les villes que dans les campagnes, mais vu qu'il y avait le chemin de fer, vu que les gens se déplaçaient davantage, ce qui se disait ou se pensait en ville commençait à faire son chemin dans les campagnes. Il m'a été dit, sans que j'en aie la preuve, que Souillac, ville où, disons, la pratique religieuse est assez réduite, elle était déjà au début du XXe siècle, c'était le chemin de fer et son installation qui avait contribué à couper cette cité de la foi et de la pratique chrétienne. Si je cite cet exemple, c'est parce qu'on est dans le Lot. Alors, voici un témoignage. Nous étions en 1891. Je prêchais le carême à Lormont, paroisse qui appartient à la banlieue de Bordeaux, où se trouvent d'immenses chantiers maritimes occupant un nombre considérable d'ouvriers. Certes, je n'avais pas à me plaindre de mon auditoire, car dès le troisième ou quatrième sermon, l'église était remplie de la tribune à l'autel. Mais j'avais beau chercher dans la foule, chercher à droite, chercher devant, chercher derrière, en haut et en bas, il m'était impossible de découvrir deux hommes. Pas même, si j'ai bonne mémoire, le chantre et le sacristain. Alors ce constat va inciter les prêtres, tout au moins un certain nombre, à la même conclusion. Pour rejoindre le peuple là où il se trouve, il faut sortir des limites et des murs de l'Église, il faut faire des conférences, accepter des tribunes dans des réunions contradictoires, fonder des journaux ou écrire dans des journaux et éventuellement se faire élire à la députation. Alors, il y a des initiatives qui sont prises, il y a la justice sociale fondée par l'abbé Naudet, à qui était due d'ailleurs la première des citation que je vous ai faite il y a un instant, qui fonde donc ce journal, journal de la démocratie chrétienne, avec des revendications politiques, organisation normale du suffrage universel, représentation professionnelle, représentation des minorités, décentralisation administrative, etc. Mais il préconise aussi une méthode démocratique d'évangélisation qui rejoint la méthode missionnaire. Et il insiste sur le fait qu'une bonne partie de la France est comme un pays de mission. Ce thème seront repris une quarantaine d'années plus tard dans un livre célèbre, France, pays de mission. Mais là, ce sera en 1943. Tandis que là, nous sommes en 1893, 50 ans avant. Alors, il y a un autre prêtre, l'abbé Garnier, qui est un conférencier infatigable, qui s'est trouvé le langage pour parler au peuple. Il fonde le premier quotidien démocrate catholique, Le Peuple Français. Et on y trouve naturellement des articles qui vont tous dans ce sens, avec un côté un peu revendicatif, parfois même critique vis-à-vis de la hiérarchie, ce qui va évidemment attirer des conflits.
Alors nous reprendrons l'histoire la semaine prochaine. Merci Lucien, merci à tous de votre attention. Au revoir et à bientôt.
Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeret. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre Église à travers les siècles.